Comment des personnes ayant vécu avant le Christ ressentaient la présence de celui-ci et comment il avait une expérience spirituelle du Christ sans en avoir eu le témoignage? Essayez de répondre à cette question-là. Mais c'est une question que je peux lier avec la fête d'aujourd'hui. Parce que précisément, les saints ancêtres que nous célébrons aujourd'hui, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob et leurs successeurs, on fait par la foi, comme dit saint Paul, l'expérience par avance, l'expérience prophétique de la venue du Sauveur, comme de fruit de la promesse qui leur avait été donnée. Et lorsqu'Abraham, habitant encore les pays païens, avait eu la révélation de l'existence du Dieu unique qui lui avait demandé de quitter sa patrie et de partir avec sa famille pour une terre promise alors inconnue, que Dieu lui montrerait au fur et à mesure. Donc par la foi, Abraham et les autres ont connu le Christ. Je ne reviens pas dessus. De la même manière que pour nous qui vivons après, mais qui ne le voyons pas physiquement, par la foi, de la même manière, nous avons aussi la connaissance a posteriori de celui qui était venu et qui donne le salut. Cependant, encore comme Abraham et ses successeurs, il nous faut encore attendre, car si la promesse nous a déjà été accomplie, si le Seigneur est venu parmi nous et en nous, ce que nous allons célébrer solennellement le jour de Noël, il faut encore que nous attendions pour qu'il y en ait une pleine révélation, que nous en ayons une pleine connaissance, et que par avance, donc par la foi, nous apprenions à vivre aussi conformément à ce que nous croyons. Comme Abraham, Isaac et Jacob et leurs successeurs vivaient déjà par avance, conformément à la promesse qu'ils attendaient, nous, il faut encore que nous vivions ayant déjà reçu l'expérience de cette promesse, la réalisation, pardon, de cette promesse, il faut encore que nous vivions conformément à ceci pour entrer dans le royaume des cieux qui se fait encore d'une certaine manière attendre, même si nous avons une prévision. Que de même manière qu'Abraham avait entendu la voix du Seigneur pour lui dire de quitter, après s'être révélé à lui, de quitter sa famille, sa parenté, son pays et de se diriger aveuglément vers une terre qui lui était promise mais qui ne lui était pas désignée. Nous aussi, lorsque nous recevons la parole de Dieu, lorsqu'on entend sa voix, il faut aussi nous empresser de tout quitter, nous qui vivons dans une terre étrangère, c'est-à-dire une terre qui n'est pas encore le royaume des cieux, ou avec une vie intérieure qui est encore pleine de passion. Il faut que nous quittions cette terre de passion pour nous diriger avec foi vers l'autre monde, vers l'autre mode de vie, à travers notre vie spirituelle. Il faut pas avoir peur de tout abandonner sans aucune hésitation pour suivre avec foi l'appel de Dieu jusqu'à la terre promise qui est l'expérience, qui est la contemplation, si vous voulez, qui est l'expérience consciente de la présence de Dieu et de son activité transfigurante en nous. Et j'ai oublié d'apporter le livre des Épîtres dont je voulais vous commenter, pour lequel je voulais vous commenter l'épître d'aujourd'hui. Mais rappelez-vous cet épître-là, saint Paul, épître aux Colossiens, nous dit qu'il faut abandonner un certain nombre de vices, de passions, si vous voulez. Il décrit deux fois cinq passions, des passions personnelles et des passions liée à la cohésion du peuple, la cohésion de l'Église, la cohésion des membres du corps de Christ, en ne mentant pas, en n'étant pas faux les uns avec les autres. Et cette épître-là, que je vous invite à relire, ce morceau d'épître qui n'est pas bien, bien long, ressemble très fortement à une catéchèse baptismale. Saint Paul nous dit qu'il nous faut nous dévêtir, nous dépouiller de nos passions. Autrement dit, comme on fait pour le baptême, on se dépouille d'une part de ses vêtements avant de revêtir le vêtement blanc du baptême, et on se dépouille en même temps du vieil homme. Donc, pour accueillir celui dont on va célébrer la venue dans le monde et en nous à Noël, pour l'accueillir, il faut d'abord nous dévêtir de notre vieil homme, de nos tuniques de peau, de nos passions décrites par Saint Paul. Et après, nous laisser revêtir du Christ. Il y a le déshabillement et la vêture d'une tunique nouvelle, qui est la tunique blanche du baptême, bien sûr, mais qui est la tunique de la grâce de Dieu, de la vie même du Christ, dans lequel nous sommes incorporés et qui nous revêt de son être, de manière à ce que nous soyons amenés à sa ressemblance. Et là est l'entrée déjà dans la terre promise. Le baptême n'est pas autre chose que cette descente mortelle, si je puis dire, dans les eaux baptismales avec le Christ, allant jusqu'à la mort, pour en ressortir en communion avec lui qui est victorieux de la mort, en ressortir ressuscité, et surtout en sortir revêtu d'une nouvelle tunique, d'une nouvelle vie, la vie en Dieu. La fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête des saints ancêtres, et cette invitation par la foi, cette invitation de foi, à, comme les saints ancêtres, à entrer dans ce mystère de dépouillement, d'abandon de tout pour l'attente de la promesse qui est la venue du Christ. Ce qui se réalise par le baptême, pour laisser de manière, et évidemment par toute notre conversion, d'où le mouvement dont parle Saint Paul, de se dépouiller de nos passions pour nous laisser revêtir du Christ, et pour le laisser grandir en nous, et que en acquérant les vertus qui ne sont pas seulement d'ordre moral, mais qui sont une manière de vivre, une manière de vivre en communion avec celui qui s'incarne, c'est ça qui fait de nous des êtres nouveaux. Et la fête de la célébration, la solennité de Noël vers laquelle nous nous acheminons, nous amène non seulement à nous réjouir de l'incarnation du Christ, de sa venue dans la chair parmi nous, mais à ouvrir nos cœurs aussi pour que cette incarnation-là, pour que son incarnation se réalise non seulement historiquement et que nous participions mystérieusement et sacramentellement à cette incarnation historiquement accomplie il y a 2000 ans, mais pour que chacun de nous laissions incarner le Christ en nous, de manière à ce que les uns et les autres, unis en lui, devenions un seul être, le corps du Christ. À la liturgie, juste avant la communion, le prêtre rompt l'agneau qui a été consacré, il le rompt en quatre parts avant de le diviser en une infinité de parcelles, je dis bien une infinité exprès, une infinité de parcelles pour pouvoir être distribué à la communion, et il dit « et rompu mais non divisé, partagé mais non divisé. Ce qui montre que le corps du Christ qui est ainsi partagé est donné par parcelles, mais à chaque fois tout entier à chacun qui, chaque personne qui communie, quel que soit le temps ou quel que soit le lieu où il est, participe à l'unique corps du Christ. Donc nous sommes en lui unis. Et la célébration de Noël en est le prémisse, en quelque sorte, on est le début de la révélation, mais il faut encore, puisque nous sommes les collaborateurs du Christ, il faut encore que nous participions nous-mêmes par notre conversion à ce mouvement. Et dans ce mouvement d'abandonner toute chose, d'abandonner notre terre, d'abandonner nos certitudes, si je puis dire, d'abandonner notre vie ancienne, d'abandonner nos tuniques de peau, et poursuivre le Christ là où il nous emmène, vers la terre promise. Ceci s'accomplit par notre conversion à tous, sans exception, et avec notre bonne volonté et la grâce de Dieu, bien sûr. Mais humainement parlant, cela s'accomplit d'une manière particulière, pas unique, mais d'une manière particulière, dans la vie monastique, qui précisément consiste à ou abandonner volontairement et librement les principes de la vie selon ce monde, pour vivre déjà par avance des principes de la vie qui doit venir, donc de vivre par la foi des principes de la vie à venir, qui est déjà le royaume des cieux. C'est dans de cette manière-là que les pères disent que la vie monastique est la vie angélique, puisque bien qu'étant vécue sur terre, elle n'est pas suivant le mode de fonctionnement de selon ce monde, mais suivant le mode de fonctionnement de l'autre monde, c'est-à-dire du royaume des cieux. Et ce mode de fonctionnement est encore une forme de dépouillement, puisqu'il s'agit de se dépouiller soi-même, notamment de sa volonté, et de sa volonté propre, notamment, mais pas exclusivement, si vous voulez, et de manière à ne plus compter pour soi, à perdre toute forme. C'est une tendance, je ne dis pas qu'on y arrive, mais de tendre à perdre toute forme de repliement sur soi, de contentement de soi ou de salut individuel, pour s'en remettre complètement à la grâce de Dieu, pour nous mener là où il veut nous mener, dans ce royaume des cieux, en communion les uns avec les autres, même si les ermites et les anachorètes sont physiquement complètement isolés, comme leur nom l'indique. Voilà.